Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Sonia Backès qui conduisait la délégation loyaliste pour les discussions bilatérales à Paris. Sonia Backès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation juste après votre retour en Nouvelle-Calédonie. Tout de suite à chaud, quel bilan est-ce que vous dressez de ces discussions bilatérales et de cette semaine à Paris? C'est la question que se posent un peu les Calédoniens. Est-ce que ça a servi à quelque chose?
Alors, on n'en attendait pas grand-chose, puisqu'on savait que les indépendantistes ne voulaient pas parler avec nous, qu'ils avaient un mandat extrêmement fermé. Au final, ça s'est passé comme on s'y attendait, c'est-à-dire que le ministre, le gouvernement nous a entendus. Là où ça a été utile, c'est qu'on a présenté notre projet, qui est aujourd'hui complètement construit, bouclé, projet qui permet de sécuriser les Calédoniens, de sécuriser leur avenir et de respecter les choix démocratiques qu'ils ont fait. Donc on a présenté ce projet dans les détails, on a passé beaucoup de temps avec le gouvernement.
On y reviendra bien
mais
sûr.
Mais ensuite, pas de discussion avec les indépendantistes, malgré la volonté de l'UNI, hein, puisque l'UNI voulait discuter avec nous, mais pas d'organisation par le gouvernement de plénière, puisque l'UC n'en avait pas le mandat.
Alors l'actualité, c'est aussi, vous le savez, les déclarations que vient de faire le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Il a fait un certain nombre de déclarations, mais peu publiquement. Et il y a une petite phrase dans un article du Monde qui vous a fait bondir. C'est quand il déclare « La trajectoire est celle qui va d'une souveraineté partagée à une souveraineté pleine et entière. Ce sont les accords. » Une trajectoire qui va jusqu'à la souveraineté pleine et entière. Il vous a dit ce genre de choses, Manuel Valls ?
Non, en fait, je regrette deux choses. D'abord, je regrette qu'il n'ait pas dit ça quand on l'a vu. Il a dit des choses qui nous ont plu, d'autres moins, mais il n'a pas dit ça. Je le regrette parce que je pense que c'est dommage, c'est toujours dommage de dire à la presse des choses a posteriori qui n'ont pas été dites aux délégations, en tout cas pas à la nôtre. Et ensuite, je regrette cette lecture de l'accord de Nouméa qui n'est absolument pas conforme à l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il dit quoi ? L'accord de Nouméa, il dit qu'effectivement, on a une trajectoire qui est effectivement celle de la souveraineté partagée, mais cette trajectoire, elle s'arrête sur les trois référendums. Et en fait, il est très clairement dit dans l'accord de Nouméa que la réponse positive, donc un oui à l'indépendance, équivaudrait, je cite, à la pleine souveraineté. A contrario, il n'est pas question de pleine souveraineté dès l'instant où les Calédoniens ont décidé de dire non à l'indépendance. Donc cette phrase de Manuel Valls qui sous-entendrait que l'accord de Nouméa mène inéluctablement à la pleine souveraineté est fausse. Donc, d'une part, moi, je suis fatiguée des ambiguïtés permanentes qui sont utilisées par les représentants de l'État pour essayer d'hameçonner les indépendantistes, de leur faire plaisir. Je rappelle que c'est quand même une partie de cette délégation qui a été à la tête de ceux qui ont tout cassé le 13 mai. Donc ces ambiguïtés, elles nous ont amenés à ça. Et d'autre part, encore une fois, on a décidé de rester français. Les trois référendums ont été reconnus par les instances nationales, internationales. Et donc, désormais, il n'est pas question de continuer sur ces ambiguïtés.
Mais alors, justement, ce positionnement, vous parlez d'ambiguïté, mais ce positionnement de Manuel Valls, c'est celui de l'État ou ça engage que le ministre des Outre-mer au travers de cette déclaration ?
Écoutez, je
ne sais pas. Parce que vous avez beaucoup de gens à Paris.
Vous savez, l'État, c'est malheureusement en ce moment, plus que n'importe quand avant, c'est pas une seule voix. Ce que je sais, c'est que le président de la République, et j'ai eu la chance de le revoir quand je suis allée à Paris, est très, très clair sur sa volonté de maintien de la Nouvelle-Calédonie en République. C'est également le cas d'un Gérald Darmanin, d'un Sébastien Lecornu et d'un certain nombre de membres du gouvernement. C'est le cas également du président du Sénat, c'est le cas de la présidente de l'Assemblée nationale qui a été plus claire à Paris que quand elle est venue en Nouvelle-Calédonie. Donc, si c'est ça l'État, je suis relativement rassurée. Puis je veux rassurer les Calédoniens parce que suite à notre communiqué, j'ai reçu beaucoup de messages disant « l'État nous largue, ça va être l'indépendance ». Non, non, il ne faut pas se faire peur. C'est pas parce que... Imaginons le pire. Imaginons Manuel Valls a décidé de larguer la Nouvelle-Calédonie et veut nous amener à l'indépendance. Mais il ne le pourrait pas. Il ne le pourrait pas parce que pour arriver à larguer la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il faudrait à minima un nouveau référendum. Et pour avoir un nouveau référendum, il faut une modification de la Constitution. Et les Calédoniens, maintenant, savent bien comment on modifie la Constitution. Il faut l'accord du Sénat, qui est à majorité à droite, Et l'accord de l'Assemblée, et vu ce qu'il y a à l'Assemblée, jamais l'Assemblée ne vote une réforme constitutionnelle sans un accord en Calédonie pour faire un nouveau référendum dont tout le monde sait qu'il amènerait à de nouvelles violences. Donc, même si, et c'est, je pense objectivement que c'est même pas le cas, c'est-à-dire que je pense que Manuel Valls ne veut pas larguer la Nouvelle-Calédonie, je pense simplement qu'il utilise des ambiguïtés sémantiques, des ambiguïtés en utilisant des mots qui font plaisir aux indépendantistes, en espérant que ça les ramène sur le chemin du dialogue. Mais c'est un leurre. Donc, je crois même pas que Manuel Valls veuille l'indépendance, mais il faut arrêter les ambiguïtés. On a décidé de rester français, les trois référendums ont été reconnus, et je suis d'accord sur le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est pas simplement un résultat démocratique qui compte. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut organiser la Nouvelle-Calédonie, non pas un camp contre un autre. Et c'est exactement l'objet du projet que nous portons aujourd'hui. Dire, ben en fait, on est tous chez nous en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes sont chez eux, on est chez eux depuis des générations et des générations, la colonisation a eu lieu, ok, il s'est passé des choses, ok. Aujourd'hui, on est tous chez nous ici. Comment on fait pour organiser la Nouvelle-Calédonie pour qu'on se sente tous chez nous, en sécurité, quelque part en Nouvelle-Calédonie.
La Calédonie est et restera française, vous l'avez écrit dans ce communiqué, vous le réaffirmez. La majorité des Calédoniens a fait ce choix, mais vous comprenez leur inquiétude, leur exaspération, l'impression que les choses ne marchent, n'avancent pas et qu'il y ait toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Vous comprenez qu'ils puissent être inquiets aujourd'hui ?
Ah mais non seulement je les comprends, mais en plus je partage leur ras-le-bol. Vous savez, moi, j'étais pas fan de partir à Paris. Il y a plus d'argent dans les caisses. Il y a des délégations. La délégation de l'UCFLNKS, ils étaient 11. Je crois qu'il y a un moment pour faire ce qu'on fait, on peut le faire ici. Donc, j'étais pas fan de partir, mais on peut pas être absent des discussions. Si imaginez que les loyalistes et le rassemblement soient absents des discussions, ça déplacerait le curseur avec Calédonie Ensemble, qui est quand même pas très très clair sur le maintien de la Calédonie dans la République, et les indépendantistes, ça nous mettrait en difficulté. Donc on est obligé d'avoir ces discussions, mais au final, moi je comprends et je partage le ras-le-bol des Calédoniens parce que on se retrouve nous à devoir réexpliquer, à devoir finalement accepter que l'État considère comme un interlocuteur équivalent à nous des gens qui, soit ont été parmi les commanditaires de ceux qui ont tout cassé, soit négocient avec des puissances étrangères un soutien contre la France. J'avoue que j'ai du mal à accepter que la République, d'une part, n'affirme pas haut et clair le respect de la démocratie, d'autre part, n'affirme pas haut et clair la condamnation des violences, je n'ai pas entendu aussi clairement que ça, et d'autre part, finalement, considère comme légitime, avec la même légitimité, les positions des uns et des autres. Vous savez, je crois qu'à un moment donné, la démocratie, c'est la démocratie. L'accord de Nouméa, on l'a tous signé, alors pas moi, mais mes prédécesseurs, il a été signé par les trois parties, et l'accord de Nouméa, il prévoyait trois référendums. Ils ont eu lieu, on en respecte les résultats.
Alors, parmi les petites phrases, les déclarations de Manuel Valls, il y a aussi un peu une tarte à la crème, mais qu'on n'avait pas entendu depuis quelque temps. Le ministre des Outre-mer déclare que l'État doit rester impartial. L'État impartial, c'est une antienne qu'on entend souvent, l'État arbitre, l'État impartial. Est-ce que ça veut dire, comme vous le disiez, un retour à l'équidistance entre indépendantistes et partisans de la France ? L'État refuse de prendre parti ? Vous aviez demandé qu'il prenne position à l'issue de cette séquence de discussion.
En fait, il y a eu deux temps. Il y a d'abord le Alozio Sacco, dans la conférence de presse qui a été tenue par le FLNKS à l'issue des discussions, a dit qu'il datait la fin de l'impartialité de l'État à 2018, au moment où le président de la République a dit en Nouvelle-Calédonie que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Il considère que l'État a pris parti à ce moment-là, et donc c'était la fin de son impartialité. Bon, c'est quand même qu'un président de la République dise que la France serait moins belle sans un bout d'elle-même, ça ne me paraît pas être d'une partialité absolue. Mais, en tout cas, eux considèrent que l'État a cessé d'être impartial à ce moment-là. Mais, admettons, l'État devait être impartial jusqu'au référendum, jusqu'aux trois référendums, et a organisé les trois référendums de manière impartiale. Mais une fois que ces trois référendums sont passés, il ne s'agissait plus de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Il s'agit de prendre parti pour la démocratie ou pas pour la démocratie. Et en fait, c'est là où l'État ne prend pas parti pour un camp. L'État doit être le garant de la décision qui a été acceptée par tous au moment où l'accord de Nouméa a été signé. Et donc l'État, quand il met en œuvre la décision démocratique des Calédoniens, il n'est pas partial. Il est impartial, il est simplement un État de droit qui respecte la démocratie et qui condamne et qui réagit fermement à la violence. C'est ça le rôle de l'État. Et donc l'État est impartial depuis le troisième référendum, très clairement. Donc les indépendantistes voudraient quoi ? Donc il faut quoi pour être impartial ? Il faut dire des phrases comme ce qui a été fait là ? Ambigu, ou on ne sait pas trop, ou... Parce que, pardon, hein, mais alors la phrase, parce que ça je l'ai dit à Manuel Valls, parce que ça il nous l'a dit en bilatéral. La souveraineté avec la France. Ben moi, il faut m'expliquer ce que ça veut dire, la souveraineté avec la France. Hein. La souveraineté, c'est simple. Hein. C'est qui est souverain dans son pays. Hein. Soit la Calédonie, elle est sous souveraineté française, soit... Donc, on est dans le cadre d'une souveraineté partagée. Ça veut dire quoi, la souveraineté partagée ? Ça veut dire qu'il y a des compétences qui sont partagées avec l'État. Ça, c'est très clair. Pas de problème. Mais la souveraineté avec la France, c'est quoi ? Je sais pas.
Ah, on sent qu'il y a toute une ambiguïté sémantique... Et ça date pas d'aujourd'hui, hein, dans le dossier calédonien. Parmi les autres formules, justement, les autres petites phrases, et là, ça, c'est peut-être la tentative de rester impartial. Manuel Valls se répète que le socle et la base des discussions, ce sont les accords de Matignon et de Nouméa. Est-ce que ça vous convient comme définition ? Est-ce qu'effectivement, les discussions doivent partir sur la base de ces deux accords, doivent prolonger ces deux accords ? Est-ce que aujourd'hui, vous êtes plus... Vous revendiquez davantage de Matignon que de Nouméa.
Alors évidemment, d'abord on considère que ce sont les ambiguïtés de Nouméa qui nous ont amenés à ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc on ne souhaite évidemment pas reproduire ces ambiguïtés. Ensuite, quand on fait les choses de manière constructive et intelligente, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on regarde ce qui a fonctionné dans Matignon, ce qui a fonctionné dans Nouméa, ce qui n'a pas fonctionné dans Matignon, ce qui n'a pas fonctionné dans Nouméa. Et puis, on essaye de construire une solution qui permette aux Calédoniens de vivre en paix, de construire, de reconstruire ce qui a été détruit, et d'enfin avoir des perspectives d'avenir de long terme. C'est ça, notre objectif. Et donc, les phrases de « le socle, c'est le plancher de l'accord de Nouméa », mais non, enfin... Ça veut dire quoi, le plancher de l'accord de Nouméa ? Ça veut dire que tout ce qui a été fait dans l'accord de Nouméa, on ne bouge pas. Alors que les indépendantistes eux-mêmes savent très bien qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Le gouvernement collégial, aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne fonctionne plus comme ça. Et on sait très bien qu'on doit faire évoluer les choses. Donc arrêtons avec des... On a l'impression que vraiment, c'est des espèces de préalables où il faut cocher les cases. Ils parlent dans leur conférence de presse, le FLNKS, ils disent maintenant, il faut... transférer plus de compétences. Alors d'ailleurs, Roquemitant parle de compétences résiduelles, je ne sais pas exactement ce que ça signifie, et des compétences régaliennes. Mais vous savez quoi ? Les indépendantistes, ils ont voulu transférer de force toutes les compétences qui ont été transférées à Nouvelle-Calédonie. Mais on est capable de les assumer aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont capables de les assumer ? Ils ont été au gouvernement pendant 3 ans. Le droit des assurances, comment la situation dans laquelle sont les Calédoniens, alors que seulement 25% des contrats ont été, des remboursements ont été effectués ? Pourquoi ? Bah parce qu'on est compétent. La fiscalité. Pourquoi l'État aujourd'hui nous dit il faut que vous fassiez des réformes ? Bah parce qu'on est compétent. Pourquoi le RUAM ? On a une situation, le RUAM perd des dizaines de milliards chaque année. Ah bah on est compétent. Hein. Mais à un moment donné, vous savez, faut arrêter de vouloir. Moi, j'entendais des indépendantistes polynésiens me dire nous, on est indépendantistes. Mais nous, on veut l'indépendance le jour où on sera capable économiquement de l'assumer. Ça, c'est une position que je respecte. Parce qu'effectivement, le jour où on est capable de s'assumer tout seul, on est capable. Mais là, c'est quoi ? Là, c'est transférer pour transférer, c'est le socle de l'accord de Nouméa, donc il faudrait pas redonner des compétences, parce que surtout, même si on n'est pas capable de les assumer, hein, mais enfin, c'est... je crois qu'à un moment donné, il faut essayer d'être constructif.
Bah, à vous entendre, on se demande comment se sont passés vos échanges avec Manuel Valls et avec le conseiller du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie, Éric Thiers. De quoi avez-vous parlé ? Est-ce que vous avez employé ce ton-là ? Et lui, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Comment se sont déroulées ? Vous avez eu 3 discussions bilatérales, je crois, avec lui.
Deux. La première réunion bilatérale a été consacrée exclusivement à la présentation de notre projet. Donc on a présenté, on avait travaillé toute une journée avec le rassemblement et l'ensemble des loyalistes. Donc d'abord, je tiens à dire que on a tenu toutes les réunions avec exactement la même position, certaines ensemble, certaines séparées. Mais loyalistes et rassemblements ont constitué au final une seule délégation, puisqu'à la fin, nous avons eu la bilatérale tous ensemble avec les mêmes positions. Donc on avait travaillé toute une journée en séminaire pour présenter un projet complètement finalisé au ministre d'État et au conseiller du Premier ministre. Donc cette première réunion, elle a été simplement l'occasion de présenter notre projet, de répondre à toutes les questions qui nous ont été posées hein, sur le fédéralisme interne que nous portons tous ensemble, de manière à lever des ambiguïtés, parce que les indépendantistes, évidemment, caricaturent notre projet en parlant d'apartheid, alors que très clairement, notre projet a vocation à maintenir, parce que c'est notre force, l'universalisme auquel on tient aujourd'hui, nous. Contrairement aux indépendantistes, on ne fait pas de différence en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'ethnie, en fonction de l'origine. Nous, on considère que tout le monde doit être traité pareil dans le projet qu'on porte. Et ça, c'est essentiel.
D'ailleurs, ça vous a surpris qu'Emmanuel Tjibaou, effectivement, dans une question, lors de la séance des questions au gouvernement, interpelle le ministre des Outre-mer en démolissant votre projet.
Oui, mais, enfin, démolissant. En fait, il le qualifie d'apartheid. Voilà. Ouais. Mais en fait, je ne sais même pas s'il sait ce qu'il y a dedans. Pourtant, on en a parlé. Je pense qu'il récupère des éléments sémantiques, des éléments de langage pour essayer de discréditer notre projet, comme si il n'y avait que le leur, finalement. De toute façon, il refuse tout simplement de prendre en compte l'existence même de ce qu'on porte. Vous savez, déjà, je l'ai dit à Emmanuel Tjibaou, qui était présent quand on a rencontré le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. La première des choses, c'est d'accepter de parler avec nous. S'ils reconnaissent notre légitimité, notre présence et la volonté de vivre ensemble, puisque c'est ce qu'ils portent, hein, parce que Emmanuel Tjibaou, il porte devant l'État ce que l'État a envie d'entendre et devant la CCAT ce que la CCAT a envie d'entendre. Donc, devant l'État, il dit le vivre ensemble, etc. Mais le premier acte du vivre ensemble, c'est peut-être de parler avec nous. Et pour l'instant, il refuse de parler avec nous.
Pour revenir à vos bilatérales avec Manuel Valls et à votre projet de fédéralisme interne, comment l'a reçu le ministre des Outre-mer? Ça l'a intéressé? C'est quelque chose qui peut l'inspirer? Il peut le prendre en compte dans la proposition que fera l'État? Ou est-ce qu'il est complètement fermé?
Oui, non, il était au contraire très ouvert. Il nous a posé énormément de questions. C'est la première fois qu'on va au fond des choses et on a beaucoup apprécié hein, cette première bilatérale parce que d'abord, le ministre nous a dit qu'il comprenait comment on en était arrivé à ce projet-là, sa construction, qu'effectivement le projet était sérieux, qu'on avait été au bout de toutes les questions qui se posent sur la manière dont pourra être organisée la Nouvelle-Calédonie sur la base de ce fédéralisme interne. Donc une vraie écoute et on était plutôt rassuré justement de la prise en compte de notre projet.
C'est un projet que vous allez présenter peut-être plus en détail aujourd'hui aux Calédoniens, maintenant qu'il est un peu abouti.
Oui, on en parlera, on a une réunion publique le 19, donc mercredi prochain au Méridien, dans lequel évidemment on parlera en toute transparence aux Calédoniens de la manière dont on a avancé sur ce projet.
Et alors la deuxième bilatérale, la première était consacrée plutôt à votre projet, la deuxième vous avez parlé de quoi? Du calendrier, du contenu des discussions, de la méthode du ministre?
La deuxième en fait était consacrée à ce que, là c'est plutôt le ministre qui s'est exprimé, et puis le conseiller du Premier ministre, pour nous faire part des grandes lignes de la réflexion qui pourrait être la leur, en précisant évidemment qu'ils allaient continuer à y travailler d'ici l'arrivée de Manuel Valls le 22 février prochain. Donc ça, c'était consacré à nous présenter les grandes lignes de cette réflexion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on était en accord. Hein, dans l'article qui est fait dans Le Monde, il est question de partage du champ régalien, alors que dans la présentation qui nous a été faite, il était très clairement établi que le champ régalien restait à l'État. Mais on a abordé les questions, évidemment, du fait que tous les Calédoniens resteraient des citoyens français. Alors ça paraît un peu basique et un peu évident, mais il a été évoqué par le ministre la question de la souveraineté avec la France, qui nous a interrogés. Mais très franchement, bon, on a eu un débat assez vif hein, à ce moment-là, puisqu'il y avait des choses sur lesquelles on n'était pas en accord. Mais On a bien compris que pour l'instant, leur réflexion était ouverte, qu'ils allaient continuer à travailler sur la base de nos remarques et des remarques sans doute des autres délégations pour arriver le 22 avec un projet plus construit.
Une sorte de document martyr comme on l'a eu dans le passé ou
alors
pas
ça n'a pas été qualifié comme ça. Je pense que ce qui est important pour nous et ce que nous avons demandé, c'est d'arrêter de nous mettre dos à dos, c'est-à-dire arrêter de nous dire discuter, alors qu'on a des gens qui ne veulent pas parler avec nous, donc discuter pour trouver un accord. Bon, on voit bien qu'une partie des indépendantistes, et je mets bien une partie des indépendantistes, parce que l'UNI souhaitait faire une plénière, avec ou sans l'Union calédonienne d'ailleurs, hein, mais l'UNI souhaitait faire une plénière, l'UNI met beaucoup de bonne volonté à trouver des points d'accord, et l'UNI prend en compte notre projet, notre présence, fait le même effort que celui qu'on fait nous, c'est-à-dire d'essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de voir ce qui pourrait permettre de trouver un accord. C'est comme ça qu'on pourra trouver. Et avec l'UNI, on arrive à faire cet exercice-là.
Et à Paris, vous êtes croisés, vous avez pu
et
parler
avec
croisés, la délégation
effectivement,
UNI.
Voilà. Mais on voit bien que côté UCF-LNKS, sous prétexte de ne pas avoir de mandat, ces discussions ne peuvent pas avoir lieu.
Sur la méthode, 6 délégations à Paris pour s'entretenir avec Manuel Valls, est-ce qu'on peut aboutir à quelque chose avec une telle dispersion et avec une représentativité, une légitimité dont on ne sait plus trop où elle est? Est-ce que ça, vous avez eu l'occasion de l'aborder avec le ministre? Et comment est-ce que vous voyez les discussions futures si on arrive à les mettre en place? Ce ne sera pas une tripartite, à la limite, il y a tellement de gens autour de la table aujourd'hui.
Nous on est... Finalement, c'est l'État qui pose la méthode et nous, on n'est pas, on met pas de préalable sur le fait de savoir si ça doit être ici ou à Paris, si il faut. Non, nous, on considère que ces discussions, elles doivent avoir lieu. Donc, on est à toutes les discussions auxquelles on nous invite. On considère que on doit vivre ensemble sur cette terre, on doit trouver des solutions pour pacifier nos relations, pour apporter aux Calédoniens de la visibilité, des perspectives. Et donc, on doit participer à toutes les discussions. Après, j'espère que l'État, et je pense que l'État est conscient du poids de chaque délégation. C'est-à-dire que, clairement, je crois qu'ils sont conscients du fait que quand Calédonie Ensemble s'exprime, ça n'a pas le même poids que quand les loyalistes et les rassemblements s'expriment en termes de représentation du camp non indépendantiste. Au niveau des indépendantistes, c'est sans doute plus compliqué puisqu'on n'a pas eu d'élection permettant de mesurer le poids de chacun entre l'UC et l'UNI. Et puis l'éveil océanien dont on connaît la position. Donc moi, je considère que tout le monde a sa place. Après, il faut simplement savoir ce que chacun représente, c'est tout. Mais la méthode, c'est pour celle-là ou une autre, du moment qu'on arrive à se parler à un moment donné, pourquoi pas.
Et en matière dans le domaine du calendrier, est-ce que là, il y a eu des dates avancées, des dates fixées? Est-ce que le 31 mars est toujours pour arriver à un accord est aujourd'hui une date écartée? Comment est-ce que le ministre des Outre-mer voit les choses?
Non, pour l'instant, il n'a pas écarté cette date-là. Cette date-là, elle n'a pas été inventée par le gouvernement précédent. Elle est issue d'un rétro-planning qui est lié à l'avis du Conseil d'État qui nous permet normalement de faire les élections au plus tard au 30 novembre. Et on souhaite tous que ces élections aient lieu parce qu'on les a déjà reportées. Là, si on est au 30 novembre, c'est déjà un an et demi de mandat en plus. Et la respiration de la démocratie, c'est les élections. Donc les élections doivent avoir lieu. Effectivement, normalement, si on veut les faire avant le 30 novembre, il faut un accord avant le 31 mars. Donc cette date-là, elle est toujours plus ou moins autour de nos discussions, sans que ce soit posé comme une pression absolue et une date absolue.
Et franchement, vous croyez que c'est possible? Vous pensez que, dans l'état d'esprit actuel, dans l'ambiance qui règne, vous pensez qu'un accord... Même, je ne parle même pas du 31 mars. Est-ce qu'un accord est possible aujourd'hui entre les partenaires calédoniens et l'État?
Alors oui, il est possible. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'état des choses, tout le monde le souhaite, sauf l'Union calédonienne. Si l'Union calédonienne fait évoluer son mandat et sa position et cherche un accord, il est possible cet accord. Maintenant, s'il n'est pas possible parce que l'UC ne le veut pas, il faut que l'État prenne ses responsabilités et présente un projet d'avenir qui concilie nos désaccords. Ce qu'il faut maintenant, c'est je crois que toutes les méthodes, tous les interlocuteurs ont été testés et ont testé la possibilité de trouver un accord. Bon, s'il est possible, tant mieux. Et évidemment, cet accord ne pourra pas se faire sans nous, donc on en fera partie, évidemment. Mais s'il n'y a pas d'accord, à un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités. Il doit dire comment les 280 000 habitants qui vivent en Nouvelle-Calédonie peuvent continuer à vivre, continuer à s'épanouir, à vivre en paix, à avoir un développement économique, à avoir des élections sans accord. C'est ça l'enjeu. Et ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, je suis... le communiqué qu'on a fait a vocation à amener, à encourager le ministre à arrêter avec les ambiguïtés. Ça ne sert à rien. À un moment donné, vous savez, toutes les ambiguïtés, on va gratter le vernis et on va savoir ce qu'il y a derrière. Tous autant qu'on est, les indépendantistes et les non-indépendantistes. Ça ne sert à rien de nous maintenir dans une ambiguïté qui, de toute façon, à un moment donné, sautera.
C'est ce que vous attendez de l'avenue de Manuel Valls, donc il vient à partir du 22 février. Un long séjour, hein, puisqu'il a prévu de passer au moins 8 jours. Vous attendez vraiment une prise de position de l'État à cette occasion? Est-ce que ça va être possible? Ou est-ce que vous attendez qu'il arrive à mettre tout le monde autour de la table? Comment vous voyez les choses?
Moi, j'ai déjà dit une chose au ministre, c'est que j'espérais qu'il allait voir des vrais gens. J'espère qu'il va aller voir des Calédoniens dans leur quotidien, qu'il va les entendre, pas seulement... les structures associatives, c'est très bien, pas de souci, c'est ce qu'on appelle la société civile. Mais les vrais gens, les gens qui tous les jours là se demandent comment ils vont payer leur crédit à la fin du mois, comment, qui sont toujours pas remboursés des assurances, qui ont perdu, les petits patentés, les gens qui, les fonctionnaires qui se demandent si la collectivité va pouvoir les payer à la fin du mois, tous les Calédoniens. Et j'ai dit au ministre, je pense que les Calédoniens ont besoin de vous voir et que vous avez besoin de voir des vrais gens. Donc ça, c'est très important. Je pense que pour sentir les choses et pour sortir de cette ambiguïté, il faut aller voir les vrais gens. Et puis ensuite, évidemment, j'espère, mais je ne sais pas quelle sera la position des indépendantistes, mais j'espère qu'il vient... il considère qu'il a reposé ou réétabli les conditions du dialogue. Si c'est le cas, tant mieux.
Rétablir la confiance entre les partenaires calédoniens, dit-il.
Alors, entre l'État et les partenaires, puisque entre les partenaires, pour l'instant, c'est compliqué. Tant mieux. Mais moi, je demande que ça, qu'il y ait une discussion. J'ai entendu la réponse d'Emmanuel Tchibaou à la question qui lui a été posée lors de la conférence de presse qui a été tenue à Paris, à la question de savoir s'il voulait parler avec nous. Il a répondu de manière un peu cynique, nous, on n'attend rien des loyalistes puisqu'ils n'ont pas de compétences régaliennes à nous donner. Bon, bah, si c'est ça la discussion, nous, on est des vrais gens aussi. Les non-indépendantistes, on a le droit de vivre sur cette terre, c'est chez nous aussi. Et je pense que la réponse un peu cynique de dire que finalement, on n'a rien à donner, c'est un peu dommage.
Ça augure des discussions un peu compliquées. Donc l'UCFLNKS, eux, ils font un préalable, hein, que les discussions se déroulent à Nouméa, ils l'ont réaffirmé. Et puis ils revendiquent même la présence de Christian Théin. Ça, c'est une provocation,
Je crois qu'ils ont évolué sur le sujet. Ils disent qu'il faudra traiter le sujet. J'ose espérer que s'ils mettent ça comme préalable à une quelconque discussion, l'État aura la preuve qu'ils ne veulent pas du tout discuter. Je pense qu'ils seront plus malins que ça et que les discussions auront lieu sans Christian Théin, mais qu'ils remettront ce sujet sur la table pour faire plaisir à leurs amis LFI qui peuvent défendre dans les manifestations la libération des prisonniers politiques.
Un mot peut-être sur le forum économique, parce que c'est aussi l'économie, c'est, vous le savez, l'un des sujets de préoccupation des vrais gens, là pour le coup. Est-ce que vous avez été rassuré à la sortie de cette journée de travaux qui s'est déroulée simultanément à Bercy et à Nouméa? Est-ce que maintenant on a des vraies garanties de la part de l'État et de la part de Bercy pour aider la Calédonie?
Alors, rassuré, je le serai quand on aura des actes. Pour l'instant, l'acte très positif, c'est quand même le vote par le Parlement du prêt garanti par l'État d'un milliard d'euros, pardon, donc de 120 milliards de francs pacifiques. Les relations avec Bercy sont toujours très compliquées. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une réunion spécifique avec Bercy au titre de la province sud. On voit bien qu'on a un décalage entre ce que vivent les Calédoniens et la perception de Bercy, même si les choses évoluent. L'un des éléments rassurants, c'est l'annonce que l'État travaillait sur un fonds pour la réassurance, ce qui est un sujet majeur, parce que aujourd'hui, ceux qui soit ont été brûlés ou pillés, soit même simplement veulent faire quelque chose, reconstruire, faire évoluer leur entreprise, ben ils peuvent pas être, ils sont pour la plupart, ils ont un refus d'assurance ou des clauses qui sont tellement limitatives qu'ils peuvent pas prendre le risque. Et donc ça, c'est un vrai problème dans la reconstruction. Et ça, on a une annonce qui a été faite par l'État qui demande à être formalisée, mais d'un travail sur un fonds d'État qui permettrait de garantir la réassurance. Ça, c'est un élément très positif. Et ensuite, il y a un gros travail qui est mené avec Bercy sur l'utilisation de ce fameux milliard d'euros. Donc j'attends maintenant la matérialisation de ça. Christopher Gigès, Thierry Santa et Alcide Ponga travaillent énormément au gouvernement avec Bercy pour formaliser les choses. Je crois qu'on a tous, aussi bien la présidente du MEDEF, le président de la CCI, les différentes interventions qui ont eu lieu politiques, tous dit que ça suffisait de poser comme contrepartie à l'aide de l'État une augmentation de la pression fiscale. Les Calédoniens ne peuvent plus payer d'impôts en ce moment. Reconstruisons, et quand on aura atteint un niveau suffisant de reconstruction, on se posera la question de la pression fiscale. Pour l'instant, c'est complètement anachronique.
En revanche, on a l'impression là, d'une vraie prise de conscience de la situation, des dégâts de la part de Manuel Valls.
Oui, très clairement.
La Calédonie est à terre, son économie est dévastée. Enfin,
c'était à ce titre très rassurant. Les propos de Manuel Valls, de Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, étaient très rassurants. C'était vraiment ce qu'on avait envie d'entendre. Donc je crois qu'il faut s'appuyer là-dessus au niveau de la confiance, parce que je crois que vraiment, ces éléments-là étaient importants. Je crois qu'il y a une vraie volonté de ces deux ministères, de celui de Manuel Valls et d'Amélie de Montchalin, d'accompagner la Nouvelle-Calédonie à sa reconstruction, avec de l'aide sur le chômage partiel, sur l'aide aux entreprises, sur l'aide aux collectivités. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il va falloir que ça se concrétise, mais ça va plutôt dans le bon sens.
Alors vos prochaines échéances maintenant à court terme, c'est le 19 février, réunion publique pour informer vos militants, vos sympathisants de ce qui s'est passé à Paris.
C'est ça, donc mercredi, réunion publique, commune loyaliste rassemblement, et puis ensuite l'arrivée de Manuel Valls le 22, auquel évidemment on a plein de choses à dire.
Merci Sabah Kess d'avoir accepté notre invitation.